Merci Francky pour cette introduction. Merci aussi à Janine qui nous a vraiment beaucoup touchés. Je me suis dit en écoutant ton témoignage, je me suis dit mais qu'est-ce que je peux rajouter de plus? C'est un super message sur l'importance de la parole de Dieu. Dieu, c'est vrai, nous cherche à travers sa parole, nous transforme avec sa parole. Et c'est vraiment important de chérir cette parole qui nous transforme, qui nous renouvelle aussi. Et que ce matin aussi, que le Seigneur nous touche avec la parole de Dieu. Non seulement à nous tous, mais à tous les enfants et aussi à tous ceux qui sont en recherche. Ce matin, vous savez qu'il y a un petit groupe qui est chez les Trompes en ce moment. Vous savez, on fait le parcours Alpha et il y a quand même pas quelques, enfin il y a un groupe de personnes qui sont en recherche de Dieu, qui se réunissent là ce week-end pour étudier sur l'Esprit de Dieu. Comment le Seigneur aussi peut toucher avec l'Esprit de Dieu. En tout cas, que le Seigneur fasse grâce aussi à toutes ces personnes. J'aimerais vous lire ce matin dans Jacques chapitre 4. C'est une parole que nous connaissons bien. Enfin, en tout cas, j'ai déjà prêché sur cette parole-là. Que j'aimerais revoir ensemble avec vous les 5 premiers versets que j'aimerais vous lire. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Jusqu'ici notre lecture. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé après cette lecture? Hein? C'est une lecture un peu difficile à entendre, non? Hein? Non? Si, hein? Moi, quand j'ai lu ça, je me dis, oh là là, mais qu'est-ce qu'il a, ce Jacques, contre les chrétiens du début du siècle? Les questions qui sont venues, qui sont venues à l'esprit, sont est-ce que les chrétiens du début du siècle étaient aussi mauvais que cela, hein, pour parler aussi durement, sèchement? En tout cas, on voit à travers le verset d'aujourd'hui, c'est que Jacques est en train de les secouer, vraiment secouer pour de bon. Jacques les traite de meurtriers, adultères. Il dit qu'ils convoitent, ils ne demandent pas. D'ailleurs, que lorsqu'ils demandent, ils demandent mal. Et après, il dit, purifiez vos cœurs, humiliez-vous, pleurez. Un peu dur, n'est-ce pas? Bon, pourquoi j'ai lu ce verset-là? Je me suis dit que les gens d'aujourd'hui, mais même aussi les chrétiens, on est devenu assez allergique. Allergique à quoi? Devinez. Hein? À Dieu, mais aussi, surtout aux remontrances. Quand on donne des conseils, ou plutôt des remontrances, on devient vraiment très allergique. Imaginez quelqu'un qui vous parle de cette manière. Et toi, adultère, là? Hein? Arrête de se comporter comme ça. C'est comme si vous étiez saint. Le saint des saints. Imaginez un ami très cher qui vous parle en disant que oh, vraiment, t'es nul. Parce que tu ne demandes pas, en fait. Hein? Et puis, on vous fait cette remarque, t'es trop jaloux. Tu convoites trop. Hein? Imaginez quelqu'un qui vous parle de cette manière, est-ce que vous ne le regarderez pas comme un prétentieux en se disant, mais de quoi il se mêle, quoi? Hein? De quoi il se mêle? Mais ce qu'on vient de lire, et aussi, comme disait Janine, c'est la parole de Dieu. Hein? C'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Je pense qu'on devrait toujours retirer quelques leçons après la lecture de la parole de Dieu. Alors tout d'abord, Jacques écrit donc aux chrétiens du début du siècle qui étaient les destinataires. On voit en général les Corinthiens étaient aussi écrits d'abord, tout d'abord pour les Corinthiens, mais là, Jacques, l'épître de Jacques n'est pas adressé particulièrement à une communauté de ville, mais plutôt à l'ensemble des chrétiens qui étaient éparpillés dans les différentes régions. Cette lettre était un des premiers livres du Nouveau Testament, vraiment un des premiers tout nouveaux livres. Donc, cette lettre était très précieuse, hein, inspirée de Dieu. Et donc, cette lettre était une lettre circulaire où toutes les églises donc, recevaient et acceptaient ce message. À travers le message, ce que nous pouvons apprendre, c'est que les chrétiens du début du siècle n'étaient pas du tout parfaits. Comme nous. Ça me console énormément. Et d'ailleurs, loin de là, il semble qu'ils se disputent pas mal. Il y a entre eux des conflits, des jalousies, de la haine. Or, c'est vrai que quand nous pensons aux chrétiens du début du siècle, on appelle ça les chrétiens primitifs, on a tendance à les admirer. Pourquoi ? Parce qu'ils ont subi la persécution, ils ont été chassés, rejetés par leur propre famille, et puis ils ont connu quand même des moments très difficiles. Mais malgré cela, ils ont tenu bon, ils sont restés chrétiens et ils ont adoré Dieu. Pour cela, je pense que on peut quand même les admirer. Mais je pense qu'il ne faudrait pas non plus trop les idéaliser. On a tendance à idéaliser les personnes comme ça, qui sont morts, martyrs. Mais vous savez, si quand on regarde vraiment leur vie personnelle, bah, ils avaient, comme vous et moi, des imperfections. Ils étaient comme nous, avec beaucoup de défauts et beaucoup de manquements. Donc, je pense qu'il ne faudrait pas trop les placer si haut dans notre imagination, parce qu'ils avaient aussi leurs propres faiblesses, ils avaient aussi leurs propres tentations. J'entends beaucoup d'histoires des chrétiens persécutés en ce moment même, qui souffrent à cause de leur foi, ont prié bien sûr, ils doivent être les objets de notre prière, ils doivent être vraiment, ils doivent être dans notre intercession, pour que Dieu agisse étant leur main protectrice sur ces personnes qui sont en danger. Mais sachez aussi qu'ils sont aussi des hommes comme vous et moi, qui ont aussi des faiblesses, qui ont aussi des manquements. En tout cas, deuxième remarque, c'est que apparemment les premiers chrétiens, ils ont quand même bien accepté ces remontrances. Et puis, malgré la sévérité des remontrances, ils ont bien accepté. Est-ce que nous pouvons réfléchir, c'est est-ce que moi ou nous sommes vraiment capables d'accepter d'être repris comme ça? Au début de mon ministère, enfin même, oui, quand j'étais étudiant à la faculté de Vaux-sur-Seine, nous avons un cours qui s'appelle homilétique. Homilétique, c'est quoi? C'est l'art de prêcher. Hein? Donc, on apprend à prêcher devant les personnes, et chaque élève devait prêcher devant toute la classe pendant 15 minutes. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Toute la classe donne leur avis. C'est pas seulement les avis, c'est des critiques. Ils disent des critiques constructives, parfois, oui, c'est utile, mais parfois, ça, ils descendent vraiment, ils n'ont pas de pitié. Hein? J'avais vraiment mal vécu ce moment parce que, vous savez, je suis pas du tout un littéraire, hein, à la base je suis un scientifique. Donc, parler devant les gens, pour moi c'était vraiment nouveau et puis difficile. C'était un exercice assez difficile. Mais chacun est passé comme ça et tout le monde a détesté ce temps où ils ont reçu des critiques. D'ailleurs, quand j'ai commencé mon ministère, quand j'ai rencontré Laetitia, je me suis dit, super, c'est une littéraire, moi qui suis un scientifique, je me marie avec cette littéraire et puis elle va m'aider pour la préparation de mes prédications. Super! Effectivement, elle m'a aidé une fois. Une fois pour la première fois, je pense. Et puis, j'ai dû prêcher avec les phrases d'elle qui ne me correspondaient pas du tout. Hein. J'étais mal à l'aise. Et j'ai plus jamais demandé. Par contre, je lui ai demandé de faire après un rapport, de me faire un retour après ma prédication. Effectivement, elle a fait un retour très constructif, mais j'ai eu vraiment très très mal. Ça m'a fait vraiment mal. Après, j'ai appris aussi à recevoir des remarques. Vous savez, avec le métier de pasteur, c'est quoi le métier de pasteur? C'est rencontrer des gens, prier, prendre soin des enfants de Dieu. Et parfois, on reçoit aussi pas mal de critiques. Donc là, je pense que je suis quand même assez rodé pour recevoir pas mal de choses. Et trier les choses, des critiques constructives, je reçois. Des critiques qui ne sont pas du tout constructives, là, je ne reçois pas. Enfin, pour dire que même les serviteurs de Dieu, recevoir des critiques, c'est un peu difficile. Mais le Seigneur nous demande d'être prêts aussi à recevoir des remarques qui viennent du Seigneur. Hein? Parfois, on pense que voilà, ça vient des hommes. Non, le Seigneur peut parler aussi à travers les hommes. Soyons aussi attentifs comment le Seigneur nous parle. Bien sûr, à travers la Bible, c'est sûr. C'est pour ça que Janine a mis l'accent sur l'importance de la parole de Dieu, puisque Dieu nous parle tous les jours. Sauf que pourquoi on l'entend pas? Parce qu'on ne lit pas, parce qu'on n'est pas attentif à cette voix du Seigneur. Le Seigneur nous demande, en tout cas, d'être attentif. Oui, est-ce que nous sommes vraiment capables d'accepter d'être repris comme ça? Comme ces nouveaux chrétiens. Je me rappelle quand j'étais dans le monde, hein, vous savez que pour certains d'entre vous, j'avais déjà raconté mon témoignage, j'étais pas tout le temps dans l'église. Au départ, j'étais dans l'église, mais après, j'ai dû quitter l'église pour être dans le monde parce que le monde m'offrait tellement de plaisir, entre guillemets, charnel, que j'ai été dans le monde et puis j'étais dans le péché. J'étais devenu même insensible au péché. Comme j'étais fils d'une responsable, des responsables de l'Église, je me comportais de manière assez hypocrite devant les chrétiens. Et puis dans la semaine, je vivais ma vie personnelle. Hein. Personne n'avait le droit de regard sur ma vie personnelle. D'ailleurs, même ma maman ne savait pas ce que je faisais, d'ailleurs. Hein? Même ma maman ne savait pas ce que je faisais. Donc, attention, ceux qui sont des enfants. Attention, Lee. Hein? Tu ne sais pas ce qui se passe avec ton fils. En fait, un jour, ma maman me demande de la récupérer avec sa voiture, enfin, avec ma voiture. Donc, elle était chez une personne. J'y vais, j'étais chez elle, chez une dame que j'avais jamais vue, vers minuit, et puis pour prendre ma maman. Et puis cette dame me demande, est-ce que toi tu veux bien prier avec moi? J'ai dit, comme j'étais un très bon hypocrite, j'ai dit, bien sûr, si vous voulez. Et puis elle me dit, écoute, moi, je veux bien prier, mais sans ta maman, sans personne, dans une chambre assez isolée. D'accord, on y va, on va prier. Hein, voilà, hein. J'ai fait semblant d'être un bon chrétien, en fait, de l'extérieur. Et puis, elle prie, elle commence la prière. Et là, elle dit, « Ah, le Seigneur aimerait te dire quelque chose. » De toute façon, à l'époque, les prophéties, ce genre de choses, je ne croyais pas du tout. Et elle me raconte, « Voilà ce que le Seigneur te dit. » Et puis, elle me raconte des choses que je n'ai jamais racontées à personne. Seul Dieu savait. Seul Dieu savait, et elle relevait ces points-là en disant que tu as péché. Hein? Personne de ma famille connaissait cette vérité. Et après avoir reçu cette parole, j'étais vraiment touché. Et puis, voilà, je me suis repenti. Hein? C'est à ce moment-là que vraiment j'ai dû retourner ma veste et devenir, enfin, j'ai essayé de devenir à ce moment-là, à partir de ce moment-là, un chrétien en abandonnant mon ancienne manière de vivre. Voilà, Seigneur peut nous reprendre de cette manière assez puissante. Voilà. Moi, j'avais besoin de ce genre de choses, peut-être. Et c'est pour ça que Dieu a utilisé. Mais pour d'autres personnes, juste avec une lecture de la parole de Dieu, il peut aussi nous reprendre, nous remettre dans le droit chemin. Quand Dieu nous parle, quelle est notre attitude? Est-ce que nous acceptons normalement ou nous bouchons nos oreilles parce que nous ne voulons pas changer? En tout cas, la parole d'aujourd'hui nous fait réfléchir. Je ne sais pas avec quel état d'esprit vous êtes venu ce matin. Qu'attendiez-vous du culte ou du message d'aujourd'hui? Est-ce que vous attendiez un message de consolation, d'encouragement, ou peut-être vous attendiez un message de la réflexion? Et quand vous avez entendu les premiers versets du chapitre 4, qu'est-ce que vous avez senti? Mais ce n'est pas pour moi aujourd'hui. Moi, je veux des encouragements. Hein? Je veux seulement des paroles douces, paisibles, qui me font du bien. Mais parfois, on n'aime pas du tout entendre des remontrances. D'ailleurs, le livre de Proverbes, donc on appelle ça le livre de sagesse, nous dit qu'il ne faut pas être réfractaire. Il ne faut pas être réfractaire aux conseils, aux remontrances, à la correction, à la morale. C'est le propre de l'insensé et du fou. C'est le chemin le plus court pour ruiner sa vie, si on n'arrive pas en tout cas à accepter tous ces conseils. Dans ma vie personnelle, en tant que pasteur, il m'arrive aussi de reprendre les gens. Bien sûr, avec beaucoup de douceur, hein, c'est mon caractère. Donc, je ne sais pas vraiment reprendre de manière assez dure. Je reprends les gens avec beaucoup de douceur. Souvent, les gens m'écoutent. Merci Seigneur. Souvent, on a expérimenté aussi dans l'Église, souvent, lorsque nous avons repris des personnes, ils se sont repentis, ils ont vraiment changé d'attitude. Merci Seigneur, merci vraiment, c'est la gloire du Seigneur. Mais il y a de temps en temps aussi des gens qui, devant mes conseils de repentance, comment on dit, il y a une expression, il m'envoie balader, voilà. Il m'envoie balader. En disant que, mais pasteur, ça ne te concerne pas, c'est ma vie privée. Ça ne te concerne pas, c'est ma vie privée. Hein? L'Église n'a pas à intervenir à ma manière de faire. Alors, je vous dis, avec beaucoup de douceur, hein? Écoute, c'est quand même, la parole de Dieu dit autre chose. Hein? Et voilà. Est-ce que nous sommes vraiment prêts à entendre parfois des choses assez dures concernant ma vie personnelle? Ce serait bien ce matin d'avoir un temps pour réfléchir. Qu'est-ce que Dieu me dit en ce moment pour me reprendre, pour peut-être m'élever davantage, pour me mettre dans le droit chemin? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire en ce moment même? Soyons à l'écoute de cette voix. Ne soyez pas comme moi quand j'étais dans le monde, insensible au péché. En tout cas, Dieu nous dit de recevoir ces remontrances. Nous qui sommes chrétiens, quel est notre but? C'est de faire la volonté de Dieu, de comprendre la volonté de Dieu, et puis de mettre en pratique la volonté de Dieu. Et nous devons aussi écouter pour cela les avertissements de Dieu lorsque nous sommes dans l'erreur. Jacques ne nous dit pas seulement que c'est mal de se disputer. Je lis le premier verset. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Voilà, donc, il ne dit pas seulement que c'est mal de disputer, mais il essaie d'expliquer un peu le mécanisme de ce dispute. À l'intérieur de moi, donc, tout d'abord, il y a un problème. Enfin, quand il y a un problème entre différentes personnes, on a tendance à chercher des raisons des querelles chez les autres. Hein, récemment aussi, j'ai discuté avec d'autres personnes, et puis la personne est en froid avec les proches, ses proches. Et cette personne me disait, j'ai dit, mais pourquoi il y a eu cette coupure de relation? Pourquoi vous n'avez plus de relation avec un tel qui est tellement proche avec vous? Elle a dit, je ne sais pas, c'est leur faute. Mais quand on voit ce genre de cas, on pense que, on ne pense pas à soi-même. On réagit exactement de la même manière, aussi, souvent, quand il y a un problème relationnel, on ne pense pas à soi-même. Pour Jacques, ici, qui a tort ou qui a raison, Jacques ne s'intéresse pas à cet aspect-là. Il veut nous rendre attentifs à ce qui est en nous, en moi. Car c'est vrai que pour se disputer, il faut être deux au moins. Hein? N'est-ce pas? Je ne peux pas disputer moi-même tout seul. C'est pour cela que Jacques nous demande de regarder plus attentivement sur ma part de responsabilité. Même si je suis responsable de 1%, je suis quand même responsable de 1% dans ce dispute. Et ainsi, en se regardant, on peut réduire la tension de la dispute. Et d'autre part, puisqu'il faut être à deux pour se disputer, si je n'arrive pas à désamorcer en moi le mécanisme de la dispute, je peux espérer, si j'arrive à désamorcer, je peux espérer réduire le nombre des disputes. Bien sûr, ce serait illusoire de penser que je pourrais échapper à toute dispute, car la Bible nous dit: autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Ça veut dire que essayez tout votre effort pour être en paix avec tout le monde. Mais ce n'est pas possible. Hein, si la personne refuse le pardon ou encore la réconciliation, ce n'est pas possible. Mais autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Je continue la lecture, verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. La convoitise entraîne la jalousie et on devient envieux. Là, Jacques reste dans la généralité. Quelle chose il est en train de parler? L'argent peut-être? Est-ce qu'on est envieux de l'argent de l'autre? Le travail de l'autre, l'intelligence de l'autre, de la considération qu'il aimerait avoir, des dons ou la reconnaissance de ses dons, Jacques ne précise pas. Mais on peut réfléchir sur quoi nous convoitons. Et peut-être le fait qu'on ne l'a pas, on peut être frustré. Et ainsi la jalousie peut être créée en nous. Ça, justement, il faudrait réfléchir. Là, il est dit encore, vous êtes meurtriers. Meurtrier. Quand vous entendez cette parole, vous vous dites, ça ne me concerne pas, je ne suis pas un meurtrier. Mais Jésus dit, Jésus a déjà dit dans la parole de Dieu, celui qui a de la haine pour son frère est un meurtrier. Celui qui a de la haine pour son frère est un meurtrier. Alors, la solution de toutes ces mauvaises choses, c'est que, verset 3, il est dit, vous demandez, et verset 2 plutôt, vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Là, Dieu est en train de dire, au lieu de jalouser autrui, demandez à Dieu, tout d'abord. Ce que vous désirez, vous ne l'avez pas, car vous ne demandez pas. C'est ce que Jacques est en train de dire. Avons-nous pensé qu'au lieu d'envier les autres ou subir des frustrations, il serait tellement plus simple de demander à Dieu ? N'est-il pas ce Dieu inépuisable de tous les biens ? Pourquoi vous ne demandez pas ? Pourquoi nous ne demandons pas à Dieu qui est infiniment riche et il est généreux ? Mais la parole d'aujourd'hui nous dit aussi que la prière n'arrange pas forcément toutes les choses, toutes nos envies, parce que vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et là, tout d'un coup, voilà, le Seigneur, il dit, bien sûr, la prière, c'est bien, demander à Dieu, c'est bien, mais il faut aussi rechercher la volonté de Dieu. De toute façon, si nous sommes vraiment avec l'Esprit de Dieu, si l'Esprit de Dieu nous aide à mieux prier, cet Esprit de Dieu nous transformera notre sujet de prière. Et puis tout à coup, verset 4, il est dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Sera ennemi de Dieu. Tout à coup, Jacques leur dit, adultère. Quand on parle de l'adultère, on pense souvent aux relations sexuelles. Mais au fait, ici, je pense que Jacques est en train de parler de l'amour du monde. Je m'explique, Dieu nous dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et aussi le monde, Dieu Mammon. Ce n'est pas possible d'aimer Dieu et puis autre chose que Dieu. Si nous aimons le monde plus que Dieu, cela veut dire aussi qu'on devient adultère par rapport à Dieu. Si nous sommes à Christ, Dieu, qui nous a donné le Saint-Esprit et qui habite en nous, nous aidera à aimer davantage seulement Dieu, parce que Dieu cherche un amour exclusif. Et c'est un Dieu jaloux. L'esprit du monde et l'esprit de Dieu ne peuvent pas cohabiter ensemble. Hein? C'est une vérité. L'esprit du monde et l'esprit de Dieu ne peuvent pas cohabiter ensemble. L'amour du monde, l'amour de Dieu ne peut pas cohabiter ensemble. C'est pourquoi Jacques nous invite à purifier notre cœur pour qu'on ne soit pas partagé entre ces deux amours. Et il nous demande vraiment de purifier nos cœurs. Au début du livre, il est dit, si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement, sans faire de reproche. Voilà, nous avons donc lu jusqu'au verset 5, avec des versets assez négatifs, mais je dirais profitables, très instructifs, salutaires même, pour nous persévérer dans le droit chemin, pour nous préserver du mal aussi. Et ainsi, on peut en tout cas tirer des leçons. Recherchons davantage la volonté du Père. La volonté du Père. Cela ne veut pas dire qu'il faut absolument être loin du monde. Enfin, parce que le monde, c'est quand même, il y a plusieurs définitions. Hein. Souvent, j'ai vu à un moment donné dans certaines églises. Une certaine catégorie de personnes ne regardait plus les matchs de foot. Ou encore, n'allez plus au cinéma. Ou encore, il ne regardait plus les films, la télé, etc. Mais non, ce n'est pas ça, être loin du monde. Hein. Bien sûr, on peut regarder la télé. Enfin, la télé, il faut bien choisir aussi le programme. Bien sûr, on peut regarder le foot. Daniel n'est pas là, mais Daniel serait content d'entendre ce message. Bien sûr, on peut être cinéphile, hein, aimer l'art. Hein, à travers, bien sûr, on peut aimer le tennis, hein, le tennis que j'aime beaucoup, que je pratique chaque semaine, etc. Mais c'est vrai que si tous ces hobbies devient une obsession, là il faut faire gaffe. Est-ce que mon hobby personnel devient un peu plus fort que l'amour de Dieu? À ce moment-là, oui, ces distractions peuvent devenir une idolâtrie. D'ailleurs, il y a un chanteur, comment il s'appelle déjà, qui aimait tellement le tennis, il était addictif. Du tennis. Vous savez ça? On peut être addict de tennis. Hein? C'est un ancien chanteur dans les années 80. Avec des cheveux... Comment? Yannick Noah? Non, c'est un chanteur. Oui, Yannick Noah, c'est un chanteur aussi, mais... C'est un vrai chanteur. Voilà. Il avait des cheveux assez frisés, beau gosse, avec des blousons cuir. Vous voyez pas qui c'est? Lavoine? Non, c'est pas Lavoine. C'est pas Balavoine? Non, c'est pas celui qui est mort. Celui qui est toujours vivant. Ouais. Enfin bref, lui, il est addict de tennis. Tous les jours, il doit jouer parce que sinon, là, il va pas bien. Hein? À ce moment-là, oui, le sport devient une idolâtrie, un idole. Hein? Dans mon ancienne église, j'avais un jeune qui, au départ, était un gars super normal. Hein? Et tout à coup, en faisant ses études à Strasbourg, il a eu l'idée de faire de l'haltérophilie. Et là, il est devenu vraiment addict. Bon, il est devenu champion de France, mais bon, il est devenu addict et il fallait absolument tous les jours faire des exercices. Et en faisant des exercices, vous savez qu'on peut avoir des plaisirs, hein? C'est, voilà, en poussant son corps jusqu'au maximum, et on peut avoir un grand plaisir. Oui, il y a toutes sortes d'addictions dans le monde. Et si on aime plus que Dieu... Là, ça devient dangereux. Vous savez que Dieu est notre Créateur. Il connaît tous nos défauts. Il connaît même nos limites. Sachez que Dieu ne nous reproche pas nos limites. La seule chose qu'il nous reproche, ce sont nos péchés. Ce sont nos péchés. Et même nos péchés, il veut bien nous les pardonner lorsque nous le lui demandons. Et il est prêt aussi à nous donner cette sagesse d'en haut qui nous fait trop défaut. Donc, n'espérons pas non plus recevoir d'un seul coup, une fois pour toutes, une grande sagesse qui fait que nous puissions vivre sereinement, non? Mais restons près de lui pour la recevoir jour après jour, pour être toujours dépendant de lui. Hein? D'ailleurs, c'est souvent comme ça. Les gens qui se transforment jour après jour, qu'on voit chez eux beaucoup de fruits et beaucoup de maturité. Les gens qui se disent transformés d'un seul coup, ça arrive aussi, mais parfois les fruits manquent aussi. Moi, j'aime bien cette expression, vraiment, oui, recevoir jour après jour la grâce de Dieu pour être transformé, pour être façonné selon le modèle du Christ. Que le Seigneur nous bénisse et que vraiment nous puissions ce matin, ou même cette semaine, réfléchir, mais qu'est-ce que j'aime plus que Dieu? Qu'est-ce que je dois changer? Comment, voilà, demandons-lui de me façonner davantage, de me, peut-être, s'il y a des choses à couper, oui, qu'il coupe, qu'il y a des choses à remettre en ordre, que le Seigneur vraiment remette en ordre, et que, voilà, l'Esprit de Dieu nous aide à mettre en pratique ce que le Seigneur nous a mis dans le cœur. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur d'être notre Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur parce que tu es notre espérance, notre Dieu tout créateur qui a toute la puissance, la capacité pour nous transformer. C'est vrai que par nous-mêmes, on ne peut pas nous changer, mais toi, tu peux nous toucher notre cœur, notre entendement, nos comportements pour nous transformer jusqu'au fond, jusqu'au cœur, Seigneur. Touche nos cœurs, touche aussi nos habitudes pour que nous soyons saints comme tu es saint. C'est vrai, tu ne refuses pas, même si tu as horreur du péché, mais tu as déjà tout accompli pour le pardon des péchés. Seigneur, aide-nous à remettre tout cela entre tes mains. Parfois, peut-être, nous hésitons parce que c'est difficile. C'est vrai, ça peut être difficile, mais avec toi, pas à pas, on peut avancer. Seigneur, oui, interviens, s'il te plaît, jour après jour, dans ma vie personnelle, pour que, plus tard, lorsqu'on remémore le passé, qu'on puisse voir aussi le fruit de l'Esprit. Qu'on puisse voir aussi cette transformation qui a été faite jour après jour parce que tu étais là avec nous. D'ailleurs, tu nous as promis d'être là parmi nous jusqu'à la fin du monde. Merci encore pour cette promesse. Merci encore de nous porter dans tes bras parce que nous avons besoin d'être portés par toi. Merci aussi de vraiment de bénir non seulement les gens de notre église, mais aussi à tous tes enfants qui te louent en ce moment. Dans le monde entier, que tu puisses vraiment étendre ta main bénissante et que, révèle-toi en nous, au nom de Jésus. Amen. Je fais des annonces.